et tu pleureras. Oh, 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 oh. Voilà, comme ça. Cha, cha, moustacha, cha. C'est toi le chat, c'est toi le chat, c'est toi le chat. Et chat perché, chat perché, chat perché. Si tu ne joues plus, pas moi non plus. Vu. Et si tu t'arrêtes, c'est trop bête. Trop bête, c'est bête, très bête. Comme ça. Cha, cha, moustacha, moustacha.
Bonjour, vous êtes bien sur 89.4 FM et c'est l'heure de...
Radio Cartable, la radio des enfants des écoles d'Ivry.
Nous sommes les CM2 de la classe de CM1-CM2 de l'école Maurice Thorez B. Je m'appelle Bouchra et je suis avec Anissa.
Salut.
Ismaël.
C'est moi.
Et Enicia.
Bienvenue.
Nous sommes heureux
et heureuses
de vous présenter cette nouvelle émission.
Le mois dernier, nous avons accueilli 3 journalistes d'Arte Junior.
Le reportage qu'ils ont tourné sur Radio Cartable passera le 31 décembre à 9h05.
Ils ont filmé dans plusieurs classes d'Ivry pour découvrir et faire découvrir le fonctionnement de notre radio, la création des émissions et le secret de nos coulisses.
Alors, n'hésitez surtout pas, le 31 décembre à 9h05, regardez Arte.
D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, le sommaire vous réserve une surprise.
C'est parti. Voici le sommaire.
À 14h05, on retrouvera la classe de CE1 de Rosalie Franklin pour leur travail autour du dessin de presse. Ils nous présenteront une nouvelle affiche sur le thème « La déclaration des droits de l'homme et du citoyen ».
Et les femmes ?
Et les enfants ?
L'homme, c'est universel, voyons. Homme, ça veut dire homme et femme et enfant. Ce n'est pas clair ?
À 14h10, retrouvez une interview exclusive des 3 journalistes d'Arte. Lorsqu'ils sont venus tourner dans notre classe pour leur reportage, ils ont accepté de répondre à nos questions sur leur métier et leur parcours.
Écoutez-les pour en savoir plus sur les journalistes, les cadreurs et les ingénieurs du son.
À 14h25, on retrouvera la classe des CE1 de Rosaline Franklin pour la revue des Unes du mois de novembre. À partir du journal Un jour une actu.
Au programme, le harcèlement et la tempête.
À 14h30, vous découvrirez une séquence Aradel avec une archive surprise.
Préparez-vous.
Enfin, à 14h55, nous écouterons un poème
lu par Fatoumata.
Elle est en CE1A à l'école Rosaline Franklin.
Bravo à elle. On a hâte d'écouter d'autres poèmes.
Bonjour, nous nous appelons Chahinez,
Safia,
Moussa,
Sarah,
Ritej,
Amir,
Jaeli,
Jenaba
et Iba.
Nous avons 7 ans et nous sommes les élèves de la classe de CEA de l'école Rosalie Franklin à Ivry-sur-Seine.
Le thème des essentiels d'un jour, une actu de mois de décembre et la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Avant de découvrir l'affiche, nous avons visionné une vidéo d'un jour, une question pour faciliter notre travail.
La déclaration, c'est un texte avec 30 articles à respecter.
Les droits de l'homme, c'est les libertés de tous les êtres humains.
C'est pour tout le monde, les hommes et les femmes.
Sur l'affiche, il y a une fille qui porte un bonnet phrygien.
On le connaît, c'est le symbole de Yeux dans la pique 2024.
Ça représente la France. Donc en France, on doit respecter cette déclaration.
Il y a 3 panneaux. Liberté, égalité, fraternité, c'est la devise de la France.
Ces panneaux sont sur un chemin qui représente la feuille des droits de l'homme.
Sur ce grand chemin, nous rencontrons une école.
Tous les enfants ont le droit d'aller à l'école.
Il y a aussi un oiseau, c'est une colombe blanche.
C'est le symbole de la paix.
La Déclaration universelle des droits de l'homme existe pour que les humains puissent vivre en paix.
Il y a une balle de tennis.
En fait, on pense que c'est la Terre car la Déclaration considère toute la Terre.
En suivant le chemin, on croise une ambulance.
Elle représente le droit d'être bien soigné.
Voyons des moyens des transports.
Une voiture, un vélo, un avion, nous sommes libres de voyager.
Il y a aussi une balance et les deux plateaux sont au même niveau.
C'est pour nous rappeler que nous sommes tous égaux.
À la fin de notre chemin, il y a une fille et un garçon qui discutent.
Ils n'ont pas les mêmes idées,
mais ils peuvent en parler car exprimer ses idées sans peur est un droit.
Il y a 75 ans, juste après la Deuxième Guerre mondiale, 58 pays se sont mis d'accord sur le droit que chaque être humain doit avoir.
Le but est d'éviter les conflits. C'est pour ça que les pays doivent tout faire pour que les droits soient respectés chez eux et partout ailleurs.
Thank you.
Reportage dans mon cartable. Reportage dans mon cartable.
Bonjour, nous sommes les CM1 CM2 de l'école Maurice Thorez B. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir avec nous la journaliste Marianne Scorpis-Rimaud, l'ingénieur du son Sébastien Guissette et le cadreur Christian Mignard. Ils sont venus tourner un reportage sur Radio Cartable pour Arte Junior et ont accepté de répondre en exclusivité à nos questions. Bonjour et bienvenue sur notre antenne. Tout d'abord, nous avons quelques questions pour tous les trois, puis nous poserons des questions plus précises pour chacun.
Vous êtes journaliste, cadreur et ingénieur du son. Pourquoi avoir choisi ces métiers ?
J'ai choisi d'être journaliste parce que je suis très curieuse, je m'intéresse à plein de choses. Et quand on est journaliste, on peut traiter de plein de sujets différents, rencontrer plein de gens qu'on n'aurait peut-être jamais rencontrés sinon, tu vois. Je t'aurais sans doute jamais rencontré si j'avais pas fait ce reportage.
Si nous souhaitons travailler, nous aussi, dans ces domaines, quelles études devons-nous faire ?
Si tu veux être journaliste plus tard, il y a des écoles spécialisées de journalisme. Alors souvent, il faut faire quelques années d'études avant d'entrer dedans. Il faut aller 3 ans à la fac, 2-3 ans à la fac, et après on peut commencer. Et c'est des écoles qui te permettent de choisir ce que tu vas faire, si tu veux faire de la radio, de la télé, de la presse écrite.
Et moi, depuis que j'ai votre âge, je fais du son, parce que j'adore ça. Pour faire ingénieur du son, j'ai fait des mathématiques et de l'électronique. Et après, j'ai fait une école d'ingénieur du son. Et on choisit les spécialités d'ingénieur du son, soit pour la télé, soit pour le cinéma.
Marianne, vous travaillez actuellement pour Arte, mais depuis combien de temps et travaillez-vous pour d'autres médias ?
Alors, pour Arte, là en mars 2024, ça fera 8 ans avec quelques périodes de pause entre des contrats. Et après, j'ai travaillé pour quelques autres médias, plutôt de la presse écrite et du web avant. Et après, ça m'arrive encore de faire un peu de presse écrite. Mais l'essentiel de mon temps, c'est Arte.
Pouvez-vous nous en dire davantage sur les spécificités d'Arte ?
Oui, alors Arte est une chaîne franco-allemande. C'est un symbole fort puisque la France et l'Allemagne ont été en guerre il y a bien longtemps. Et que bien longtemps après, on a créé cette chaîne qui diffuse tous les jours dans les deux langues, donc en français et en allemand. Mais on est aussi une chaîne européenne, donc on fait aussi des programmes dans d'autres langues. En anglais, en espagnol, en italien et en polonais.
Y a-t-il un reportage, une interview, une rencontre qui vous a particulièrement marqué ?
Alors oui, il y en a plusieurs, mais ce qui me vient en premier, ce qui me vient directement, c'est un petit peu triste. C'était un monsieur âgé qui était à l'hôpital et qui était soigné. Et donc, on avait fait un reportage pour expliquer comment on soignait les gens dans ce service. Et c'était très émouvant parce que le monsieur, il nous a raconté des choses assez belle sur sa vie, et puis voilà, il était en mauvaise santé, mais il était très content de nous rencontrer aussi.
Dans le cadre de vos missions, avez-vous été amené à voyager, et si oui, où ?
Alors oui, ça m'est arrivé de voyager, donc déjà dans d'autres endroits en France, pour Arte, notamment en Irlande, et pour de la presse écrite, en Laponie, au Svalbard et au Groenland, donc assez loin dans le nord, entre autres.
Reportage dans mon cartable. Sébastien Guisset, vous êtes ingénieur du son. En quoi consiste votre métier ? Que préférez-vous ? Y a-t-il des choses qui vous déplaisent ou qui sont moins agréables ?
Alors, moi, je suis en effet ingénieur du son et c'est une spécialisation de prise de son à la fois en reportage, mais aussi en plateau. Et puis en tournage en général. Ce que je trouve très intéressant, par exemple, dans cette fonction d'ingénieur du son, c'est que, comme j'ai fait et que je continue à faire des reportages, en fait, je rencontre beaucoup de monde. Je me retrouve dans plein de situations différentes. Et en fait, ces situations différentes, au fur et à mesure, étape par étape, ça t'apprend encore quelque chose sur ton métier. Donc ça, c'est le point très positif. Après, des points négatifs, il n'y en a pas trop, parce que c'est vraiment un métier passion, en fait. Donc, c'est vrai que parfois t'es un peu fatigué quand tu fais des très grandes journées, que t'es à l'étranger, que t'as passé des contrôles dans des pays super surveillés, que t'as toujours ton matériel, etc. Puis parfois d'avoir du matériel encore plus gros, que tu portes ça un peu sur le dos toute la journée. Bon, mais dès le lendemain, on repart, quoi.
Merci.
Christian, dites-nous en plus sur le métier de cadreur.
Le métier de cadreur consiste à filmer tout ce qui se passe sur le terrain ou dans une classe comme aujourd'hui. Essayer de capter l'ambiance un petit peu. Si c'est dans un bar, ça va être la convivialité, les échanges entre les clients. Si c'est une manifestation, voir si les gens sont en colère. Penser à prendre des plans larges, des plans serrés, des gros plans, les détails sur des pancartes, sur les haut-parleurs, sur les points levés, si c'est des gens qui sont pas contents, si c'est un concert, les sourires, les gens qui applaudissent. C'est penser à tous ces petits détails et ramener un maximum d'images pour que le monteur, ensuite, ait beaucoup de choix. Parce que quand tu tournes toute une journée, tu vas ramener peut-être une heure, deux heures d'images pour un sujet qui fera au final deux minutes. Donc le monteur, qui va travailler avec le ou la journaliste, en une journée, il faut qu'il fasse une sélection des plans pour que ça finisse sur une durée précise de deux minutes. C'est très important.
Reportage dans mon cartable.
Nous vous avons observé lors du reportage et certaines et certains d'entre nous sont très intéressés par vos métiers. Quels conseils pouvez-vous nous donner si nous souhaitons suivre vos pas?
Alors, si tu veux être journaliste, oui, il y a plusieurs conseils. Alors, il y en a un, ça fait référence à ma question tout à l'heure. Déjà, c'est d'être très curieux, de regarder autour de soi. Des fois, les idées de sujets, on les a en lisant les journaux, mais on les a des fois en regardant autour de soi. Par exemple, tu passes dans une rue et tu vois, je sais pas, un immeuble en train d'être détruit ou en construction. Tu vas dire, tiens, qu'est-ce que c'est que l'histoire de cet immeuble? Et peut-être que tu vas avoir une idée de reportage. La deuxième chose, c'est d'être un peu têtu. Parce que des fois, on te dit non pour un sujet. Un journal va te dire non, je prends pas ce sujet, faut peut-être le proposer à un autre. Ou alors, tu vas vouloir interviewer une personne et elle va dire non. Et du coup, tu vas essayer de trouver une autre personne pour ton reportage. Et après, peut-être la troisième chose, c'est de savoir écouter les gens qui te parlent en interview. Des fois, les gens, ils vont te raconter un bout de leur histoire et des fois, elle est peut-être difficile ou, tu vois, c'est un truc important pour eux. Et voilà, faut le savoir les écouter et comprendre aussi parfois leurs émotions.
Et vous, Christian, quels conseils pouvez-vous nous donner?
Si tu veux être plus derrière la caméra, faut être bien concentré. Il faut être très rigoureux, il faut être exigeant avec toi pour avoir une bonne forme physique. Parce que tu vois, la caméra peut être lourde et les journées sont longues. Prendre un gros petit déjeuner, ça c'est un journaliste qui me l'a dit un jour. Mais comment ça, tu ne prends pas un gros petit déjeuner? Donc voilà, pour être bien en forme. Et puis être positif, tu vois, quand t'arrives quelque part et puis que ça te paraît un peu difficile, bon ben faut pas trop vite t'inquiéter, faut se dire que ça va bien se passer. Puis rassurer tout le monde, parce que souvent t'as une équipe ou des personnes qui sont inquiètes par le travail qui doit être fait, donc faut leur dire que ça va bien se passer pour les détendre et que les interviews soient réussies. Voilà.
Ce que je peux vous dire, moi, c'est que c'est un métier de passion. Moi, quand j'avais votre âge, par exemple, j'adorais enregistrer, faire comme si je faisais des émissions radio. J'étais chez moi, dans ma petite chambre, comme ça, je passais des disques, voilà. Puis après, j'ai eu un petit enregistreur, j'enregistrais des choses. Et puis, au fur et à mesure, après, je suis allé faire de la musique. J'ai joué de la guitare classique au conservatoire. Si le son vous intéresse, vous allez grandir là-dedans, vous allez apprendre de plus en plus de choses. Lisez des livres, renseignez-vous et amusez-vous, surtout. Amusez-vous.
Merci d'avoir accepté de passer à votre tour derrière le micro pour répondre à nos questions. Nous vous souhaitons une très bonne continuation et d'avoir l'occasion de faire des reportages toujours plus intéressants. Merci de faire vivre l'information.
Bah merci beaucoup pour les questions et surtout pour votre accueil pour le reportage sur Radio Cartable. On était très contents de vous rencontrer.
Reportage dans mon cartable. Reportage dans mon cartable.
Get in. Je m'appelle Yasmine.
Et moi, Noam, nous sommes les élèves de la classe de CE1A.
Bonjour, je m'appelle Camille.
Et moi, Gaël, nous sommes à l'école Rosaline Flanclin.
Bonjour, je m'appelle Abdul Basset.
Et moi, Célestine, nous vivons à Ivry-sur-Seine.
Bonjour, je m'appelle Naïl.
Et moi, Carlos, nous avons 7 ans.
Voici notre revue de presse du mois de novembre.
Notre premier journal du mois parle du harcèlement à l'école.
Le harcèlement, c'est quand une personne se moque et humilie une autre personne de façon répétée.
Quand on subit du harcèlement, il faut immédiatement en parler.
Pour lutter contre le harcèlement, ce mois-ci, les élèves à partir de CE2 ont rempli un questionnaire anonyme.
En novembre, la France a été frappée par une tempête.
Elle a fait beaucoup de dégâts.
Des arbres sont tombés, des habitants n'avaient plus d'électricité pendant plusieurs jours.
Il y a eu des inondations, même des morts.
En France, plusieurs projets d'autoroutes sont rejetés par les citoyens.
C'est le cas de l'autoroute A69.
Ils ne volent pas car les autoroutes polluent et abîment la nature.
La France pourrait renoncer à certains projets.
En finissant avec un volcan qui vient de se former en Islande.
Il est responsable ces derniers jours de centaines de séismes.
Il a même provoqué une faille longue de 15 km dans le sol.
Des habitants sont évacués.
car il peut bientôt entrer en éruption.
Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve dans un mois pour la revue du mois de décembre.
Actualité
d'ici
et d'ailleurs.
Reportage dans mon cartable.
Bonjour à tous les auditeurs de Radio Cartable. Nous sommes le CM1A de l'école Maurice Thorez B. Vendredi 19 avril 2013, nous sommes allés à France Inter.
Nous avons rencontré plein de gens là-bas. Nous avons visité les locaux et assisté au journal de 13h, celui de Claire Servajan.
France Inter.
Bonjour Philippe Bertrand, bonjour à tous. La fin du cauchemar pour la famille Moulin-Fournier enlevée au Cameroun. Il y a 2 mois, elle a été libérée. Les 3 adultes et les 4 enfants sont en bonne santé.
Après le journal, nous avons pu lui poser des questions. Voici notre interview. Bonjour, pouvez-vous vous présenter aux auditeurs de Radio Cartable?
Bonjour Radio Cartable, je m'appelle Claire Servajan, je suis journaliste à France Inter, où je présente le journal de 13h, c'est la mi-journée, c'est l'heure où les gens font la pause pour manger, mais moi, je suis là, je donne les informations, à l'heure où vous êtes plutôt à la cantine, vous j'imagine, non?
Qu'aimez-vous le plus dans votre métier de journaliste?
Ce que j'aime le plus, c'est que ça change tout le temps, tous les jours, qu'on s'ennuie pas du tout, qu'on arrive le matin, on sait pas toujours de quoi on va parler, et puis les nouvelles arrivent, et on s'adapte, et parfois il y a des très bonnes nouvelles, comme aujourd'hui, puisque vous avez entendu un journal où on a parlé des otages libérés au Cameroun. En plus, 4 enfants, hein, otages, donc c'est une sacrée bonne nouvelle, je pense que vous l'avez vécu vous aussi comme ça, de savoir que maintenant ils étaient libres. Et voilà, donc bon, il y a aussi des jours où il y a des mauvaises nouvelles. Nous les journalistes, on a plus tendance à parler des mauvaises nouvelles, mais quand on en a des bonnes, on est drôlement content. Comme la dame, peut-être que vous avez entendu, qui a gagné 26 millions au loto, alors qu'elle est femme de ménage, qu'elle n'avait pas d'argent, qu'elle était obligée d'aller à la Croix-Rouge pour nourrir sa famille. Et voilà, 26 millions d'un coup. Et maintenant, elle dit qu'elle va aider la Croix-Rouge. Elle dit aussi qu'elle va prendre un chariot, elle va le remplir à ras-bord au supermarché. Elle va aller faire le plein de sa voiture, elle va mettre de l'essence jusqu'à ras-bord, alors que jusqu'à présent, la pauvre, elle mettait un petit peu d'essence seulement dans son réservoir. Voilà, donc aujourd'hui, on a des bonnes nouvelles.
Pour faire notre revue de presse à Radio Cartable, on utilise différents médias. Et vous, quelles sources et quels outils utilisez-vous pour trouver des informations?
Alors ça, c'est une excellente question. Je te remercie vraiment de l'avoir posée. C'est très important. Alors, les sources d'informations, c'est d'abord nos reporters, nos journalistes spécialisés, comme Sonia, que vous avez vu, qui est venue vous voir à Radio Cartable. Alors elle, par exemple, elle s'occupe de l'éducation, de l'école, donc elle connaît tout. En général, il n'y a rien qui lui échappe. S'il y a une grosse information qui concerne l'école, j'ai même pas besoin d'attendre que ce soit dans un journal écrit ou sur des dépêches d'agence, etc., ou qu'un ministre annonce quelque chose, parce qu'en général, Sonia, elle le sait. Et donc ça, c'est notre force à France Inter. On a des super spécialistes qui savent déjà les choses et qui nous préviennent. Après, elle va aller en reportage. Elle va donc nous expliquer un petit peu ce qu'elle voit sur le terrain, faire des interviews, nous ramener toute cette matière-là. Après, vous avez entendu, on a aussi des correspondants dans différents pays. Notamment, tout à l'heure, on était avec Fabienne Saintès, qui est aux États-Unis. Alors elle est toute la journée avec toutes ses télévisions branchées, ses radios américaines, et puis elle nous raconte. Donc ça, c'est aussi une source d'information. Et on a aussi les dépêches d'agence qui nous arrivent, voilà. Et puis on se copie aussi un petit peu les uns sur les autres. Hein. Quand on est journaliste, faut bien avouer qu'en général, on écoute ce que font les autres et puis on vérifie si c'est vrai et puis sinon on le donne aussi.
Comment faites-vous s'il y a un problème technique pendant le direct du journal de 13h?
Alors s'il y a un problème technique, il faut faire du blabla. en attendant que ce soit réparé. Donc on meuble, on dit oui, alors dans un instant, ça va s'arranger, ça va aller mieux, mais en attendant, sachez que blablabla. Voilà, il faut meubler, hein, et puis on prie pour que ça s'arrange. Voilà ce qu'on en fait. Ou alors on passe carrément à un autre sujet s'il n'y a personne au bout du fil.
Est-ce que vous utilisez un conducteur pendant votre journal? Si oui, lequel?
Alors le conducteur, on le fabrique, hein, on fait une liste en fait, on met tout dans l'ordre parce qu'il faut quand même un minimum d'ordre. Parce que quand moi je dis « Allô, le tennis », faut pas que ce soit la politique qui me réponde, tu vois. Donc effectivement, faut mettre un petit peu d'ordre dans tout ça, sinon ça va pas du tout. Donc on le fait nous-mêmes.
Vous avez parfois des invités dans votre journal. Comment fait-on pour les avoir le jour J?
Ah, ça c'est aussi une excellente question. Parce que les invités, il faut qu'ils collent à l'actualité. Parfois, il y en a qui sont prévus à l'avance. Et puis le jour où ça arrive, on se dit, oh là là, ça colle pas du tout, c'est pas du tout ce qu'il faut. Comme aujourd'hui, tu vois, on avait prévu les pandas. Et c'est les otages qui ont été libérés. Donc on a tout changé. Du coup, on a enregistré les pandas pour une autre fois. Mais c'est très compliqué. Et le monsieur qui était en direct tout à l'heure, le monsieur qui a été libéré, l'otage, j'ai su, il était à peu près moins 2 ou moins 3 minutes que je l'avais. Donc faut pas s'affoler. Faut se dire que ça va bien se passer. Et puis ça se passe bien. Voilà.
Merci Claire Servageon d'avoir répondu à nos questions.
C'est moi qui remercie Radio Cartable et qui souhaite longue vie à Radio Cartable.
Voilà, c'est terminé pour notre interview de Claire Servageon. On se retrouve la semaine prochaine pour l'interview de Jacqueline Petros.
C'est la rédactrice en chef des journaux du vendredi, samedi, dimanche sur France Inter.
Reportage dans mon cartable. Reportage dans mon cartable.
Allez, c'est parti pour notre interview de l'équipe du Téléphone Sun. Hélène, Ophélie et Sylvain. Première question, combien de personnes comptent votre équipe et quel est le rôle de chacun?
Alors, c'est moi qui vais commencer. Alors, la Téléphone Sun, c'est 4 personnes tout le temps. Donc, il y a Sylvain, Ophélie, moi-même et il y a Stéphanie qui va arriver, qui est la réalisatrice de l'émission. Alors, chacun a un rôle. Sylvain vous l'a dit, s'occupe de tout ce qui est site internet et réseaux sociaux. Ophélie, c'est elle qui travaille avec moi pour choisir les sujets, après pour choisir les invités, pour les inviter, c'est-à-dire les appeler. Et puis elle fait aussi de la documentation. Et puis moi je finis ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire je présente l'émission. Le téléphone sonne, voilà.
Merci. Pouvez-vous expliquer à nos auditeurs ce qu'est le téléphone sonne et depuis combien de temps existe cette émission sur France Inter?
Alors je commence, elle existe depuis 1978, c'est la plus vieille émission où les auditeurs avaient le droit d'appeler, on appelle ça aujourd'hui l'interactivité, mais en gros c'est quand les auditeurs appellent et que nous on essaie de leur répondre ou que des invités essaient de leur répondre.
Qu'est-ce que vous aimez à la radio et pourquoi?
Ophélie.
Je crois que la radio c'est un média effectivement qui permet d'être très concentré sur ce qu'on entend et du coup de s'en imprégner différemment que si on regarde la télévision. Je pense que la télévision on est aussi parasité beaucoup par les images qui nous empêchent je pense sans parler de bien entendre et d'écouter. Moi, c'est ça qui me plaît. C'est un média qui permet aussi de réfléchir, de penser et puis de voyager aussi. C'est un média aussi qui accompagne beaucoup, je trouve, puisqu'on peut tourner le bouton un peu n'importe où, dans une voiture, comme disait l'un de vos interviewés, mais aussi dans n'importe quelle pièce de votre maison. Pourquoi pas aussi maintenant sur des tas d'appareils électroniques dans la rue. Voilà, c'est un animal de compagnie intéressant pour reprendre le sujet de votre émission ce soir.
Bah, moi, ce que j'aime beaucoup à la radio, alors en tant qu'auditeur, déjà, c'est en effet de pouvoir surtout s'immerger dans un univers juste sonore. Voilà, voyager comme ça, quand on est chez soi, en train de faire la vaisselle ou de travailler, juste d'écouter une émission, je sais pas, sur le voyage, sur les animaux, sur n'importe quoi. Et puis, pour travailler à la radio, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est un média qui se fait en direct. Et il y a toujours le petit track avant le direct que moi, j'aime beaucoup. Voilà.
D'accord. Combien de temps faut-il pour préparer une émission?
C'est compliqué parce que ça dépend vraiment des émissions. Il y en a qui se font très rapidement parce qu'on a tout de suite l'idée du sujet, parce qu'on a, on sait tout de suite qui on veut inviter, puis parce qu'on connaît bien le sujet, alors du coup on peut la préparer voilà, en quelques heures. Et puis parfois il y a des émissions qui prennent du temps, parce que d'abord on ne sait pas trop quoi faire ce soir, ou demain soir, ou après-demain soir. Et puis on ne sait pas qui interviewer, alors c'est là où Ophélie, et moi un petit peu, mais beaucoup Ophélie, on doit chercher qui travaille sur tel sujet. Bon, et puis après, il y a le temps de préparation normal, où on doit apprendre quand même un petit peu, par exemple la disparition des espèces animales, avant d'arriver à l'émission, il faut forcément un petit peu travailler pour savoir de quoi on parle. Donc voilà, ça va de quelques heures à parfois plusieurs jours, même si c'est pas du 100%, c'est pas du 24 heures sur 24.
Et ça vous arrive de changer de personne quelques minutes avant ?
Quelques minutes, ça nous est pas encore arrivé, nous, cette année, mais le jour même, oui. C'est-à-dire qu'on tout à coup, on décide, par exemple, de changer le sujet de l'émission, parce qu'il s'est passé quelque chose d'important ou de grave dans le monde, et donc on décide de s'intéresser à ce qui vient de se passer, donc on change tout. Mais sincèrement, on l'a pas fait quelques minutes avant, on l'a fait... quelques heures. Et puis parfois, il y a des invités qui, en revanche, nous disent « Ah ben non, finalement, je pourrais pas être là ». Donc là, c'est vrai qu'il faut trouver son remplaçant ou sa remplaçante.
Mais du coup, vous changez toutes les questions ?
Le téléphone sonne, ce qui est bien, c'est que ce sont les auditeurs qui font les questions. Donc, vous voyez, j'ai pas un boulot incroyable, quoi. C'est vous, les auditeurs, qui devez poser des questions. Ouais. Alors, évidemment que ça change. D'abord, il faut faire la présentation de l'invité, donc on s'adapte, évidemment. Et t'as raison, si quand on change complètement de sujet, il faut vite se mettre dans l'autre sujet. Si on travaille sur la disparition des espèces animales, et puis que la tour Eiffel s'effondre ce soir, pourvu que ça se passe pas... forcément, là, il faut tout de suite passer à autre chose. Donc, il faut un peu se renseigner sur la tour Eiffel, combien de hauteur, qui y avait dessous, etc., tu vois. Donc, dans son cerveau, faut vite changer.
D'accord. Comment se déroule une de vos journées de travail à France Inter ?
Sylvain.
Alors, moi, ma journée de travail, elle commence surtout l'après-midi à France Inter, mais... En fait, mon travail, moi, d'abord, c'est, comme a dit Hélène, le but du téléphone sonne, c'est que ce soit les auditeurs qui posent les questions. Mais pour qu'ils posent des questions, il faut qu'ils soient au courant du sujet. C'est quand même mieux pour poser des bonnes questions. Et alors, voilà, pour qu'ils soient au courant du sujet, alors bien sûr, Hélène fait une promotion chaque jour avant l'émission. Elle dit de quoi est-ce qu'on va parler ce soir et ça passe à l'antenne quelques minutes. Mais moi, ce que je fais, c'est le site Internet. Comme ça, les auditeurs peuvent aller sur Internet, faire voir... de quoi on va parler le soir, donc moi je m'occupe de ça. Et puis maintenant, comme le téléphone sonne suit l'évolution des nouvelles technologies, il y a l'interactivité par les réseaux sociaux, et donc il y a Twitter, il y a Facebook, et voilà, c'est aussi ce que je fais. Voilà.
Alors moi, ma journée, elle commence le matin, comme pour beaucoup de gens. J'arrive à la radio, on essaie de lire la presse, hein Hélène ? Ouais, on essaye. donc on essaie d'éplucher un petit peu effectivement la presse. Ensuite, moi je m'occupe de bien être certaine que les invités du soir même seront là, présents, etc. Donc je m'assure de ça. Et puis ensuite je commence à anticiper les émissions qui vont suivre. Donc le lendemain, le surlendemain, de réfléchir au sujet, aux invités, de les appeler, etc., etc. Voilà. Et puis la journée file aisément jusqu'à la fin, jusqu'à l'émission.
Et on finit à 20h. À 20h, on a terminé notre journée, puisque l'émission, c'est 19h20, 20h. Donc là, on souffle et on se dit à demain. Et effectivement, en général, Ophélie et moi, on a déjà quand même pensé à ce qu'on allait faire le lendemain.
Comment faites-vous pour choisir vos invités ? Et est-ce difficile de les convaincre de venir au téléphone sonne ?
Là, c'est Ophélie qui va répondre.
Alors, choisir les invités. Avant de choisir les invités, il faut choisir le sujet. Une fois qu'on a choisi le sujet, il faut essayer de comprendre de quoi on va parler, donc quelles questions on se pose. Une fois qu'on a compris les questions qu'on va se poser, il faut savoir qui va y répondre, qu'on va se poser, en tout cas que nous on se pose, mais qu'éventuellement aussi les auditeurs vont se poser. Donc ensuite, une fois qu'on a ça, il faut savoir qui va y répondre. Il faut donc trouver environ, en règle générale on invite 3 personnes. Au téléphone sonne. Et on essaie de choisir 3 personnes qui ont un profil différent chacune. C'est-à-dire, ça peut être un sociologue, un politique, enfin voilà, des gens qui ne réfléchissent pas de la même façon. Voilà. Ensuite. Est-ce que c'est dur de les convaincre ? En règle générale, j'ai envie de dire non, quand même, parce que, pour être très honnête, je crois que France Inter, c'est quand même une radio très populaire, très écoutée. C'est la première en France, disons-le. Soyons fous, non? Dans le monde, peut-être même. En tout cas, voilà, je pense que la notoriété de ce média, sa crédibilité, fait que finalement les gens ont envie de venir parler à France Inter et aux auditeurs de France Inter. Donc non, on n'a pas trop de mal à les convaincre. Non, non, sauf pour des... Il y a des sujets, si. Il y a des sujets qui sont un peu plus difficiles que d'autres. Par exemple, allons-y aussi, pour convaincre un grand patron d'entreprise de venir nous parler, c'est très compliqué. Si on demande à Barack Obama, ça va être très difficile aussi. Voilà.
Quels sont les difficultés pour choisir un sujet? Comment faites-vous pour vous informer sur le sujet du jour?
Alors, pour choisir un sujet, ben nous, le téléphone sonne, on essaie d'alterner les sujets qu'on dit chauds, c'est-à-dire les sujets d'actualité, c'est par rapport à ce qui se passe en France, dans le monde, dans tous les domaines, dans le domaine politique, social, culturel. On parle d'éducation, on parle de santé, on parle nouvelles technologies, on parle... voilà. Et donc ça, c'est des sujets qui peuvent surgir dans l'actualité et des sujets plus magazine, c'est-à-dire par exemple ce qu'on va faire ce soir ensemble, la disparition des espèces animales, c'est un sujet plus magazine parce que a priori il n'y a pas quelque chose qui s'est passé aujourd'hui ou hier qui nous raccroche à ça, mais c'est quelque chose dont on peut parler aujourd'hui, demain, dans une semaine et voilà. Donc on essaie d'avoir un petit équilibre comme ça. Parfois c'est dur de choisir des sujets parce que soit on en a trop. On en a rarement pas assez, mais parfois il faut choisir parce qu'on a plusieurs idées, puis on se dit bon, quelle est la meilleure? Et encore une fois, le téléphone sonne, il faut toujours réfléchir par rapport aux gens qui vont nous appeler. Est-ce que c'est un sujet qui va susciter des questions chez les gens ou pas? Et parfois on se trompe, parce que on fait aussi des émissions où finalement il n'y a pas tellement de questions. Nous on se dit que ça ne veut pas dire que les émissions ne sont pas intéressantes, ça veut dire que les gens peut-être nous écoutent, mais il y a des sujets parfois un petit peu difficiles où c'est un petit peu compliqué de poser des questions. Donc, et on les choisit. Alors après, pour se renseigner, ben, Ophélie vous l'a dit, normalement on essaie de lire évidemment le plus possible la presse déjà, pour connaître l'actualité, on écoute la radio, parfois on regarde un petit peu la télé. Tellement, mais un petit peu. Et puis après, on se renseigne à Radio France, on a de la chance, on a un énorme service de documentation.
Ok, merci.
Quels sont les sujets qui reviennent le plus souvent dans votre émission?
Les sujets sur l'éducation, sur l'école, sur la santé aussi. Oui, vas-y.
Le téléphone sonne, ça veut dire que c'est terminé pour notre interview. On remercie Hélène, Ophélie et Sylvain.
Merci.
Reportage dans mon cartable.
Bonjour, je m'appelle Thierry.
Bonjour, je m'appelle Gloria.
Bonjour, je m'appelle Yélé.
Bonjour, je m'appelle Salia.
Bonjour, je m'appelle Mickaël.
Bonjour, je m'appelle Thomas.
En résumé de ce micro-trottoir, on constate que beaucoup de personnes ne savent pas comment fabriquer une émission de radio.
Après le micro-trottoir, il nous a donc semblé intéressant de rencontrer un professionnel de la radio.
C'est pourquoi, dans un deuxième temps, nous avons décidé de rencontrer un journaliste qui s'appelle Nicolas Grébet, qui a l'habitude de travailler en radio.
Nous lui avons posé des tas de questions sur son métier, sur son expérience à la radio et sur le montage d'une émission de radio.
Voici donc maintenant cette interview exclusive.
Nous en profitons pour remercier Nicolas d'être venu dans notre classe et d'avoir répondu à toutes nos questions.
Reportage dans mon cartable.
Bonjour, nous sommes la classe de CM1C de l'école Albert Einstein. Notre maîtresse s'appelle Kadine Chadera. Pouvez-vous vous présenter?
Bonjour, je m'appelle Nicolas Grébert. Je suis journaliste radio.
Pourquoi avez-vous choisi ce métier?
J'ai choisi ce métier parce que j'aime bien savoir ce qui se passe autour de moi, connaître les nouvelles, les informations, ce qui se passe sur notre planète.
Est-ce dur votre métier?
C'est un métier qui est assez plaisant, qui change souvent, c'est-à-dire qu'on c'est peu routinier. Tous les jours, il se passe des choses nouvelles. On apprend beaucoup, c'est assez agréable.
Dans quel style de radio vous travaillez?
Actuellement, je travaille dans une radio qui s'appelle RMC, qui est une radio où il n'y a pas du tout de musique, où on parle que d'informations, de sport, beaucoup.
Est-ce que vous avez déjà interviewé des personnes célèbres ?
Ça m'est déjà arrivé de faire des interviews de gens, des artistes, des hommes politiques, ça m'est déjà arrivé. Quel nom je pourrais vous donner ? C'est presque une colle, j'en ai fait beaucoup, mais des hommes politiques, je ne sais pas si vous les connaissez. Lionel Jospin ?
Dans combien de radios avez-vous travaillé ?
Ma première radio était une radio en Loire-et-Cher, à Blois, qui s'appelait Radio Val-de-Loire. Ensuite, j'ai travaillé en Nouvelle-Calédonie, dans une radio qui s'appelait Radio Rythme Bleu, très très loin d'ici. Ensuite, je suis revenu à Paris pour travailler dans une radio qui s'appelle 95.2. Ensuite, à l'AFP Audio et RMC, ça fait donc 5 radios.
Depuis combien de temps vous êtes journaliste ?
Je suis journaliste depuis 15 ans.
Quel matériel utilise-t-on ?
Quel matériel j'utilise ? En radio, on utilise des micros et puis des enregistreurs qui sont un petit peu plus gros que ceux que vous avez là. Et puis des stylos et des feuilles de papier. Je dis des crayons et des papiers, mais c'est aussi des ordinateurs. Parce que là, je réponds à vos questions sans préparation. Mais quand on fait un journal, on écrit les informations. Alors soit on peut l'écrire avec le crayon et la feuille blanche, mais c'est plutôt à l'ordinateur qu'on travaille.
Avez-vous des assistants ?
On peut avoir des assistants. En radio, il y a plusieurs types de métiers. Il y a un reporter, il y a un journaliste qui peut poser des questions. Il y a aussi ceux qui préparent des émissions. Là, aujourd'hui, où je travaille avec 5 personnes pour préparer toute une émission au matin, toutes les informations au matin.
Avez-vous déjà voyagé ?
Pour mon métier ? Un petit peu, oui. Ça dépend là aussi des radios dans lesquelles on travaille et ce qu'on y fait, mais on peut être amené à voyager. Là, je suis à Paris, je peux être amené à aller faire un reportage à Lille, à Marseille, à Bruxelles, peut-être en Belgique, en Grande-Bretagne. On peut voyager.
Aimez-vous votre métier ?
Oui, j'aime bien mon métier. C'est un métier qui est très intéressant, où on apprend tous les jours, on s'intéresse à des tas de choses. C'est assez enrichissant.
Mais quel type de journaux ?
Des journaux d'information, c'est des journaux parlés qui sont d'une durée qui est variable. Ça peut être tout simplement ce qu'on appelle un flash d'information qui peut durer une minute ou deux minutes. Comme ça peut être quelque chose de plus long, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, une heure. Et dans ces journaux, on met l'actualité, ce que vous pouvez lire aussi sur des journaux papier, ce qui s'est passé à Ivry, à Paris, en France, dans le monde, dans le sport, dans le monde du sport.
Combien de temps mettez-vous pour faire un montage ?
Ça dépend de l'interview. On peut parfois si l'interview est bien réalisée et que la personne qu'on interview parle bien de manière courte, assez simple, ça peut durer très très peu de temps, comme ça peut durer beaucoup de temps s'il y a plusieurs personnes qui parlent, s'il y a d'autres sons, s'il y a un petit peu de musique, ça peut prendre beaucoup de temps.
Comme quand on vous a posé la question si vous aviez des assistants, vous nous avez dit que ça dépendait, mais vous avez quel rôle dans la radio ?
Moi, j'ai un rôle de coordination, c'est-à-dire que je m'occupe de savoir, de regarder l'actualité. On a dans une radio d'information différentes sources d'information. On a ce qu'on appelle l'AFP, l'Agence France Presse, qui toutes les minutes donne des informations qui arrivent, qui nous arrivent. On doit les regarder, les lire. Et ensuite les sélectionner, savoir quelles informations nous semblent intéressantes, sur lesquelles on souhaite travailler, voilà.
Bonjour, je m'appelle Camille, et avez-vous travaillé déjà sur un meurtre ou sur quelque chose comme ça ?
Oui.
Mais est-ce que c'était dangereux de travailler sur ça, en fait ?
Ben non, c'est pas dangereux, on fait pas un métier dangereux. Il y a des journalistes qui peuvent faire des reportages risqués, dangereux, notamment ceux qui vont en Irak. Vous avez dû entendre parler des otages, peut-être. Il y a des journalistes qui peuvent être otages, donc ça peut être un métier très dangereux. Moi, je le fais de manière plutôt confortable puisque je suis comme ici quand je travaille, assis sur une chaise, derrière un écran.
Est-ce que vous écoutez des fois Radio Cartable ou je sais pas des autres radios que dans lesquelles vous avez travaillé?
Oui, Radio Cartable, ça m'est arrivé d'écouter parce que Radio Cartable c'est une belle radio. On entend beaucoup d'enfants, c'est agréable, et on n'entend pas beaucoup ailleurs.
Je voulais savoir, est-ce que vous avez déjà interviewé des enfants?
Oui. J'ai déjà fait des micro-trottoirs avec des enfants. On peut imaginer que je vienne par exemple dans votre école, savoir qu'est-ce que vous pensez, parce que vous avez une école qui ressemble pas à toutes les écoles qu'on voit, c'est une école ouverte. Je peux venir vous demander comment, est-ce que vous êtes content d'apprendre dans cette école. Ça peut être pour ça.
Est-ce que vous avez déjà utilisé du matériel ancien pour faire de la radio?
Moi, j'ai commencé avec ce qui apparaît aujourd'hui comme du matériel ancien, même si c'est pas très vieux. Mais il y a encore 10 ans, on travaillait sur de la bande. C'est-à-dire, vous voyez quand les cassettes, eh ben, vous voyez la bande qui passe. Nous, on travaillait auparavant avec de la bande. On enregistrait sur de la bande qui était un petit peu plus grosse. On avait besoin de ciseaux pour faire du montage. C'était pas sur ordinateur. On travaillait avec des ciseaux, on coupait ce qui nous intéressait pas, comme ce que vous faites sur ordinateur, sauf qu'on le faisait à la main avec des ciseaux, et ensuite on collait avec un petit collant pour rapprocher les choses. Voilà, ça c'était du matériel ancien, ouais.
Faites-vous le montage de façon ancienne ou de façon récente?
Bah dites-moi un peu comment vous avez travaillé, comment ça se passe, et puis moi je vous dirai un peu comment moi je le fais dans mon métier.
Bah en fait on est allé dans une salle informatique parce qu'on avait déjà interviewé des personnes de l'école avant, et après on a coupé sur l'ordinateur des bruits qu'on aimait pas trop, plein de choses.
Oui, et aussi on a rajouté de la musique ou on a rajouté des choses.
Vous avez gardé ce qui vous plaisait le plus dans tout ce que vous avez enregistré, c'est ça? Je travaille exactement comme vous. C'est-à-dire que on enregistre des choses et ensuite on rentre tout ce qu'on a enregistré sur un ordinateur. On arrive à visualiser ce qu'on a enregistré. On enlève ce qui nous plaît pas ou ce qui nous intéresse pas. Et ensuite on réduit tout ça pour avoir un format très défini sur un temps voulu, mais comme vous.
Vous avez déjà interviewé des personnes à Ivry?
J'ai suivi pendant une ou deux années toute l'actualité spectacle, et à Ivry il se passe pas mal de choses comme le festival Son d'hiver, donc ça m'est déjà arrivé d'interroger des gens qui travaillaient pour ce festival ou qui venaient en résidence à Ivry, ça m'est déjà arrivé.
Encore merci d'avoir répondu à nos questions et au revoir.
Ben, c'est moi, merci à vous.
Reportage dans mon cartable.
Vraiment très intéressant cette interview. Nous avons eu plein de nouvelles informations qui vont bien nous servir.
Si vous voulez tout savoir sur la suite de notre enquête,
retrouvez-nous les détectives de la radio
dès la semaine prochaine à la même heure,
et nous vous ferons écouter
le montage
que nous avons nous-mêmes réalisé.
Thank you.
de notre poésie.
Le tour du spectacle. Il se tape sur la tête. Boum. Il se retape sur la tête. Boum, boum.
Et maintenant, mesdames et messieurs, nous allons vous présenter en grande première mondiale le
poème du poète. C'est pour dire tout cela et mille et mille et mille autres choses. T'as besoin de comprendre.
Bonjour, je m'appelle Fatoumata et je vais vous réciter Coco Petit Kangourou. Coucou petit kangourou, coucou petit kangourou. On va dépasser tes oreilles de cette poche où tu joues le soir quand tu n'as pas sommeil. À l'abri des regards indiscrets, tu grandis tout doucement, bien au chaud dans ce lit douillet. Tu ne vois pas passer le temps, bientôt le moment sera venu où courageux tu sortiras pour découvrir ce monde inconnu qu'en quelques jours tu connaîtras.
Karine Persilé.
On a hâte d'écouter d'autres poèmes.
Bonne fête de fin d'année.
On se retrouve en 2024 pour de nouvelles émissions.
Et surtout, pour la suite et la fin de notre rentrée littéraire.
Au revoir.
Radio Cartable. École d'Ivry.
Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. Vous allez écouter l'émission Bibliomanie, aujourd'hui présentée par Valère-Marie Marchand, avec à la technique Flo Descailloux, qui s'occupe de l'orchestration musicale et que vous connaissez tous. Alors aujourd'hui, c'est une grande joie de faire une émission autour de Raymond Radiguet, du centenaire de sa mort et du centenaire de la publication du Diable au corps, en présence de Chloé Radiguet, qui est la nièce donc, de Raymond Radiguet, et de Julien Sandre, qui est son coéquipier, pourrait-on dire, pour une biographie à quatre mains, je ne sais pas si on dit ça, ou une biographie à deux têtes. Raymond Radiguet, un jeune homme sérieux dans les années folles, ça vient de paraître aux éditions Robert Laffont. C'est une biographie, vous trouvez voilà, une somme très importante d'informations, de témoignages et une chronologie vraiment très soignée. Et puis les œuvres complètes aussi que vous avez édité l'un et l'autre d'ailleurs, les œuvres complètes définitives d'après ce que j'ai compris, l'édition définitive des œuvres complètes de Raymond Radiguet, ça c'est dans la collection je crois Les Cahiers Rouges chez Grasset. Hein. Alors bonjour à l'un et l'autre.
Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour à l'un et l'autre. Alors c'est vrai que Raymond Radiguet, c'est un peu pour toute personne qui aime la littérature, qui passe par la case littéraire, ne peut être que sensible à Raymond Radiguet. C'est un personnage de roman. Avec ce que vous soulignez d'abord l'un et l'autre, dans le titre de votre biographie, Raymond Radiguet, un jeune homme sérieux dans les années folles, avec un paradoxe. C'est un paradoxe, Raymond Radiguet. C'est un mystère et un paradoxe. Le paradoxe, c'est que c'est à la fois quelqu'un de réservé et de surexposé. C'est quelqu'un qui est, comment vous dire, attendrissant et inquiétant, de sage et d'audacieux, de jeune et d'extrêmement mature. Il y a un côté, oui, singulier et universel chez Raymond Radiguet. Je dirais qu'il y a une double double facette. Il y a le double, voilà, ce qui va bien d'ailleurs avec Cocteau, mais c'est la figure du double qui m'a interpellée dans votre biographie. Et aussi, ce titre qui est très beau, Un jeune homme sérieux dans les années folles. Moi, j'ai pensé à son personnage du bal du comte d'Orgel, François de Sérieuse. Je ne sais pas. Mais il y a ce côté grave, la gravité de Radiguet. Je vais passer la parole à Chloé Radiguet. Vous êtes la nièce de Raymond Radiguet.
Oui, enfin, je suis une nièce de Raymond Radiguet, mais la seule qui s'est intéressée de si près et de si profond à son œuvre et à sa vie. C'est mon père qui m'a introduite, entre guillemets, à la célébration de Raymond. À 9 ans, il a commencé à me parler de Raymond, il n'a plus arrêté. Et voilà, j'ai pris des notes à partir de mes 15-16 ans. Ça nous a servi, on n'a pas fait une biographie universitaire, on nous l'a reproché. Mais ce n'était pas ce qu'on cherchait, c'était vraiment au plus près de la vie de Raymond Radiguet et de ses apparentes contradictions.
Oui, apparentes contradictions, c'est tout se recoupe finalement aussi. Hein. Et je dirais presque que vous tirez Raymond Radiguet aussi de la présence de Cocteau. C'est-à-dire on voit vraiment toutes les rencontres qu'il a faites qui sont très importantes. Julien Sandre.
Oui, absolument. Il est vrai que on associe beaucoup, exagérément presque, Raymond Radiguet et Jean Cocteau. Ça s'explique par le fait que, après la mort de Raymond Radiguet, qui donc est mort très jeune, à l'âge de 20 ans, Jean Cocteau, qui avait beaucoup d'admiration, mais qui était aussi probablement épris de Raymond Radiguet, a contribué à entretenir constamment sa mémoire, à l'entretenir en faussant un petit peu la nature de leur relation. Je crois que Raymond Radiguet, pour ce qu'on peut en savoir, ne l'ayant connu ni l'un ni l'autre, mais simplement après avoir lu des témoignages nombreux d'écrivains contemporains, mais aussi de compositeurs, de musique, de peintres, etc., on voit que Raymond Radiguet avait pour Jean Cocteau à la fois une immense estime pour l'écrivain Jean Cocteau, et aussi beaucoup d'affection, certainement, mais une affection, je dirais, plutôt fraternelle. Voilà. Raymond Radiguet aimait beaucoup les femmes. Ça fait partie aussi de son personnage. Et en effet, il a...